Imaginez que un de vos amis ou une de vos connaissances s'intéresse à la foi, vienne au GBU régulièrement, et ce depuis 10 mois. Ça fait 10 mois qu'il est content d'entendre l'évangile, de lire l'évangile, de parler avec des chrétiens, mais vous avez l'impression que cette personne n'avance absolument pas. Elle est très intéressée, mais ça ne va jamais plus loin. Comment faire avec ce genre de personne? C'est ce que nous allons voir dans un passage de l'évangile de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 51. C'est un passage qui arrive après l'épisode de la multiplication des pains par Jésus. Après cette multiplication, Jésus est parti loin de la foule. Il a traversé à pied la mer de Galilée. Et là, on le retrouve donc de l'autre côté de la mer de Galilée, avec la foule qui vient de le retrouver. Donc dans Jean 6, à partir du verset 24. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ses bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi ils dirent, « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit ce texte de l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. » Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui, parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel ?» Jésus leur dit « Cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Jusqu'ici, notre lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, comme d'habitude, maintenant, nous allons regarder la structure de la conversation entre Jésus et la foule. Et dans ce texte-là, nous n'avons plus affaire à une seule personne, mais carrément à une foule entière. Alors voici la construction de la conversation. La foule demande « Quand es-tu arrivé ici ?» Jésus répond « Vous voulez simplement manger, mais visez une nourriture éternelle. » La foule lui rétorque « Comment accomplir l'œuvre de Dieu ?» Jésus lui répond « Il faut croire en son envoyé. » La foule lui dit « Eh bien, nous voulons une nouvelle manne comme preuve. » Jésus leur dit « Eh bien, il y a le pain du ciel. » La foule lui demande « Donne-nous de ce pain-là. » Jésus répond « C'est moi qui rassasie et qui abreuve éternellement. » Et il continue en disant « Vous ne me croyez pas, mais si quelqu'un vient à moi, il est assuré d'avoir la vie éternelle. » Et là, la foule ne répond pas « Mais pense, mais on connaît ses parents. » Il ne vient pas du ciel. Et Jésus enchaîne sur son enseignement principal. Ici, nous ne sommes plus dans du un à un, je l'ai déjà dit, mais dans la confrontation avec une foule qui veut manipuler Jésus. En effet, malgré la question innocente du verset 25, « Seigneur, quand es-tu arrivé ici ?», Jésus dénonce la seule motivation de la foule, la bouffe. Étant donné que la veille, tout le monde a assisté à la multiplication des pains, les versets 30 et 31 montrent que ces gens instrumentalisent une demande de signes miraculeux pour avoir un petit-déj gratuit. Jésus se sert donc de la faim de ces personnes pour les amener vers des réalités plus spirituelles. Mais même si c'est bien lui qui mène l'échange, son affirmation du verset 36 donne une note très réaliste, pour ne pas dire fataliste, quant au résultat final de ses miracles et de ses enseignements. Au verset 36, Jésus leur dit « Je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, mais vous ne croyez pas. » Dans les versets 33 et 34, eh bien, vous avez juste à remplacer l'eau par le pain, et c'est exactement la même structure que la conversation avec la Samaritaine. Le verset 34, où la foule dit « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là », est vraiment le verset pivot de la conversation, au même titre que ce cri du cœur de la Samaritaine « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Après avoir donné envie, Jésus place son enseignement principal. Les versets 41 et 42 ne font pas vraiment partie de la conversation, puisque on est un peu dans la tête de la foule qui murmure contre Jésus. Mais une fois de plus, Jésus montre qu'il est au moins un prophète en répondant à une objection qui ne lui a pas été faite directement. Et quand il y répond, cela confirme son enseignement qu'il vient de Dieu. Alors une fois qu'on a vu un peu la structure de la conversation, quels enseignements peut-on tirer de ce passage, de cette conversation? Le premier enseignement, c'est qu'il faut travailler pour une nourriture spirituelle, éternelle, et c'est Jésus qui la donne, car il vient du Père. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est une phrase qui pourrait résumer le matérialisme fêtard, et on peut dire que cette phrase est la phrase la plus bête qui soit, parce qu'elle passe à côté d'au moins 90% de la réalité. Ce que propose Jésus est mille fois plus important que les besoins physiologiques. Jésus affirme qu'il est le Seigneur qui change le cœur de l'homme, qui lui permet d'être celui qu'il a toujours été appelé à être réellement. Jésus répond à ses aspirations profondes parce qu'il lui permet de retrouver une vraie communion avec son Créateur, celui qui le connaît par cœur. Donner un sens à la vie, c'est l'offre inégalable de Jésus. Et cette phrase « Mangeons et buvons car demain nous mourrons » devient excessivement pâle face à cette proposition de Jésus. Le deuxième enseignement, c'est que la nouvelle manne, le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie éternelle au monde en se sacrifiant, c'est Jésus. Dans le désert, les Israélites ont pu manger et vivre grâce à la manne, grâce à ce pain que Dieu leur envoyait tous les jours du ciel. En descendant du ciel pour se faire homme, en donnant sa vie, en portant sur lui nos péchés à notre place, Jésus nous offre la vie éternelle. C'est efficace en une fois, à l'opposé de la manne qui devait tomber tous les jours. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit au sacrifice de Jésus. Il n'y a pas non plus de date de péremption, alors que, vous le savez peut-être, la manne était périmée tous les jours, et il fallait justement qu'elle retombe. Avec Jésus, le sacrifice dure éternellement. Autrement dit, du temps de Moïse, il y a eu la manne, et maintenant, avec Jésus, il y a Superman. Oui, c'est une blague pourrie. Troisième enseignement. Jésus sauve tous ceux qui mettent leur foi en lui, ceux qui lui sont donnés par son Père. C'est la réalité moins joyeuse de ce passage. Cette réalité, c'est que tout le monde n'est pas destiné à écouter, n'est pas destiné à comprendre et accepter le message du salut. Jésus le sait et il est serein avec ça. Aussi répète-t-il inlassablement ce qu'il a déjà dit malgré les signes d'incrédulité de la foule. Dans l'évangile de Jean, les paroles et les miracles puissants du Seigneur Jésus ne sont pas là pour convaincre, mais pour mettre en lumière les intentions véritables de chacun. C'est un peu comme si nous assistions au grand procès de l'humanité, dans lequel tous les événements étaient des pièces à conviction. Dans la suite du récit, nous avons un aperçu du verdict. Une grande partie de cette foule, qui a vu des miracles, abandonne Jésus. Au verset 66. Tandis que les 12 continuent de les suivre, dans les versets 68 et 69. La différence entre ces deux réactions opposées, eh bien, c'est le verset 65, cette déclaration de Jésus qui dit « Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. » Et au verset 70, il dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12 ?» Notre monde aujourd'hui n'est pas très différent de la foule du temps de Jésus. Les gens d'aujourd'hui sont tout aussi englués dans leurs besoins matérialistes, sont toujours obsédés par leurs petits plaisirs égoïstes. Et quand on leur parle de réalité spirituelle, eh bien, ils ne comprennent rien. Ils se disent « mais ça, c'est des rêveries, nous, on veut s'amuser, on veut manger, on veut... » Voilà, c'est déconcertant, mais en même temps, nous pouvons nous dire que depuis 2000 ans, depuis 10 000 ans, ça n'a pas changé. Et que c'est normal que c'est normal, mais que certains, au bout d'un temps, se posent les vraies questions. Certains comprennent même l'enseignement et certains l'acceptent. Mais c'est une petite partie de l'humanité, c'est une petite partie des gens qui sont autour de nous, mais c'est déjà une partie. Donc peu de personnes comprennent, beaucoup restent complètement englués dans leur humanité, restent englués à cette terre, restent englués dans les mensonges du diable, mais certains se font extirper de cette glu par le Saint-Esprit et se tournent vers Jésus parce qu'ils veulent vraiment aspirer à cette réalité éternelle. Alors, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, eh bien, il nous faut, comme d'habitude, maintenant, voir les exemples qu'on peut tirer de cette conversation. Comment est-ce que nous pouvons imiter Jésus ? La première chose que nous devons faire comme Jésus, c'est éveiller la curiosité. Comme avec la Samaritaine, Jésus donne à la foule des paroles intrigantes qui la poussent à en savoir plus. Quand il nous arrive d'expliquer notre foi, nous sommes tellement pris au dépourvu ou tellement occupés à tenir des propos cohérents que nous oublions souvent de captiver notre auditoire. Une conversation, c'est pas un ensemble de monologues, c'est plus une partie de ping-pong verbal. Quand nous parlons du Seigneur, nous devons laisser la place aux réactions, nous devons laisser la place aux questions. Alors que finalement, on rêverait de convaincre notre interlocuteur du premier coup. Finalement, nous devons réfléchir à nos accroches, à notre style. Nous avons donc besoin d'entraînement pour être prêts quand on nous demandera de justifier de notre espérance. Mais attention, quand je dis ça, je ne vous parle pas de manipulation ou de méthode commerciale appliquée à l'évangélisation. Ce dont je parle, c'est tout simplement une façon de mettre en valeur notre discours. Si notre maître a utilisé des paroles provocatrices, des déclarations obscures, des paraboles ou des questions pièges pour tenir son auditoire en haleine, pourquoi ne le ferions-nous pas ? Nous devons vraiment veiller à ce que nos interlocuteurs, trouvent que nous sommes des gens un petit peu bizarres, qu'ils aient envie d'en savoir plus. La deuxième chose que nous devons faire pour imiter Jésus réside en une phrase que nous devrions sans cesse répéter à tous ceux qui perdent leur temps à gâcher leur potentiel. Vous n'êtes pas destiné à cela. Vous n'êtes pas destiné à cela, à cette vie-là. Voilà ce que nous devons répéter. À ces personnes perdent leur temps dans des activités au mieux stériles, au pire destructrices. Vous n'êtes pas destiné à cela. Nous avons été fabriqués pour rendre gloire à Dieu, pour vivre une relation merveilleusement intense, fructueuse et bénéfique avec lui. Ne pas être conscient de cela, c'est prendre le risque de rater sa vie. À l'heure où beaucoup se préoccupent de leur développement personnel, ou de savoir par des moyens ésotériques quel sera leur avenir, nous devons proclamer que toutes ces choses sont à trouver dans la Bible, et spécialement auprès de Jésus. En plus, la réponse est vraiment extraordinaire. Nous sommes faits pour vivre éternellement et développer les dons, les capacités que Dieu nous fait. À côté de cette perspective éternelle, toutes les autres voies sont tellement insignifiantes. Aider chacun à voir au-delà des apparences matérialistes, c'est notre travail d'ambassadeur. C'est notre travail de porte-parole. Et du coup, l'évangélisation devient beaucoup moins dure. Nous n'avons pas l'impression de devoir vendre un produit. Non. Nous devons communiquer qu'il y a un autre bonheur possible, un bonheur incommensurablement supérieur à tous les bonheurs que nous vend cette société de consommation. Et enfin, la troisième chose que nous devons faire pour imiter Jésus, c'est de nous rappeler que le maître de la moisson, ce n'est pas nous. Comme Jésus, nous devons proclamer, prouver, contredire, enseigner, remettre en question, tout en sachant qu'il y aura une opposition certaine et que nos efforts ne seront pas toujours couronnés de succès. Par contre, notre rôle n'est pas de spéculer sur les résultats de notre travail d'ambassadeur, mais plutôt d'obéir à celui qui nous envoie. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Alors c'est une pure perte de temps que de tergiverser sur la manière dont nous devons faire les choses. Bien sûr, nous devons réfléchir et nous préparer avant d'annoncer l'Évangile. Mais bien souvent, nous réfléchissons tellement longtemps que nous ne faisons rien. Tous ceux que le Père a donnés à Jésus viendront à lui, par votre intermédiaire. Les autres, ils auront entendu le message et ils pourront peut-être l'accepter plus tard, ou pas. Mais en tout cas, faisons notre travail, obéissons, sans trop regarder les résultats potentiels. Mais faisons notre travail bien, comme je l'ai déjà dit, en éveillant la curiosité et vraiment en disant à ceux qui sont autour de nous qu'ils peuvent vraiment aspirer à une vie meilleure avec Jésus. Quant à cette personne qui s'intéresse à la foi depuis des mois et qui n'a pas l'air d'avancer d'un pouce, je pense qu'il faut se poser des questions. Et que peut-être que cette personne est comme la foule, qui suit Jésus pour profiter de ses miracles. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'entourage des chrétiens parce qu'elles trouvent ça agréable, parce qu'elles profitent d'une atmosphère plutôt bienveillante, plutôt bénéfique. Mais finalement, elles les suivent pour ce qu'ils représentent et non parce qu'ils sont disciples de Jésus. Et je pense qu'une personne qui vient pendant plusieurs mois comme ça au GBU ou à l'église, eh bien, c'est peut-être une personne qui a besoin d'entendre l'évangile dans son aspect le plus scandaleux. Et peut-être qu'il faut lui montrer qu'elle a un choix à faire, qu'elle ne peut pas éternellement être dans l'entourage des chrétiens comme ça et tout de même se perdre. Que finalement, les chrétiens ont beaucoup plus à offrir qu'une atmosphère bienveillante. Et donc, je pense qu'il faut oser lui montrer un évangile plus subversif. Lui dire peut-être plus clairement qu'elle a besoin de se positionner par rapport à Jésus. Ça ne veut pas du tout dire que si elle refuse le message, eh bien il faudra couper les ponts avec elle, bien sûr. Mais en tout cas, vraiment s'assurer qu'elle a bien compris le message profond du Seigneur Jésus pour qu'elle ait vraiment l'occasion de lui dire oui et de devenir peut-être chrétienne, qui sait. Mais en tout cas, ne laissons pas les personnes autour de nous n'être que des profiteurs de l'Évangile, mais qu'elles soient vraiment partie prenante, participante, bénéficiaire de cet Évangile, car la chose la plus importante pour nous, c'est qu'elles aient la vie sauve, une vie éternellement heureuse.